France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les studios de guitare, ravi de vous retrouver chaque semaine sur France Musique, une émission aujourd'hui largement consacrée à Samuel Strouk, guitariste bien sûr, mais également compositeur, chef d'orchestre, arrangeur, directeur de festival. Samuel est une personnalité à part que l'on suit régulièrement depuis quelques années maintenant. Il sort dans quelques jours, le 24 avril exactement, un nouveau projet intitulé « Élise, mon mirage ». Un projet d'ampleur puisqu'il s'agit d'un double concerto de sa composition pour guitare et violoncelle. Une œuvre interprétée par le violoncelliste Boris Andrianov et le guitariste Dimitri Ilarionov. L'Orchestre National de Bretagne dirigé par Aurélien Azan-Zielinski. Et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir écouter quelques extraits en avant-première. Samuel est d'ailleurs notre invité. On parlera ensemble de cette grande œuvre et il se chargera de la séquence guitare de légende, seul cette fois-ci avec sa guitare. Et avant cela, pour la première partie d'émission, j'avais envie d'installer une ambiance un peu orchestrale et d'écouter avec vous quelques pages de concerto de guitare, pas forcément parmi les plus fréquentées, mais qui valent le détour. On commence avec une très jolie page à l'esthétique un peu néo-romantique. On écoute et on en parle après.
Thank you.
Le concertino en la mineur de Salvador Bacaris, ce compositeur membre fondateur du groupe des 8 avec les frères Halfter, qui cherchait le chemin d'une modernité dans la musique espagnole du XXe siècle, en s'éloignant des racines nationales et du folklore traditionnel. Ce deuxième mouvement, Romance, fait vivre une mélodie imagée, habitée par un souffle un peu romantique. Et du souffle, il y en a aussi dans l'enregistrement, c'est un son au charme vintage. Et c'était Narciso Yepes qui tenait la guitare, Raphaël Frubeck de Burgos dirigeait l'Orchestre National d'Espagne. On continue avec une autre page d'un concerto, même principe, on écoute, on se dit tout après. Là, on change complètement d'esthétique.
Thank you.
La guitare de John Williams jouait le premier mouvement du concerto pour guitare d'André Prévin. L'orchestre symphonique de Londres était dirigé par le compositeur. Dans cette œuvre, Prévin explique qu'il avait avant tout cherché à écrire une musique distrayante. Conçu pour la salle de concert, il voulait illustrer, selon ses mots, la bataille entre l'orchestre et la guitare. Un combat dans lequel la guitare sort victorieuse. Voilà, vous connaissez la fin. Mais ça ne vous gâchera pas le plaisir d'écouter les deux autres mouvements de ce concerto, car ici, ce n'est pas le résultat qui compte. Allez, encore une page d'un autre concerto. Un compositeur anglais récemment disparu, héritier de Richard Roger Bennett, qui composait aussi pour la salle de concert, mais également beaucoup pour le cinéma et la télévision.
Thank you.
Le concerto de Christopher Gunning, la guitare soliste est jouée par Craig Ogden, le Royal Philharmonic Orchestra de Londres est dirigé par le compositeur. On écoutait le deuxième mouvement, Slowly but with movement, lent mais avec du mouvement. Beaucoup de métiers dans l'écriture, un sens mélodique très intéressant et il sait où placer la guitare dans son orchestration pour que ça sonne. C'est vraiment une partition à découvrir. Allez, un dernier extrait avant de recevoir notre invité Samuel Strouk. On n'est plus vraiment là dans l'univers du concerto, il s'agit plutôt d'une orchestration, d'une réinterprétation. Rolf Lislevand s'empare d'une partition de Giovanni Paolo Foscarini et avec l'ensemble Concerto Stella Matutina, il recrée une musique entre le jazz et la musique ancienne, entre l'improvisation et l'arrangement. Il y a des citations dans tous les sens, ça donne un peu le tournis, mais bon, on aime bien ça.
Thank you.
Rolf Lislevand et le concerto Stella Matutina faisaient tourbillonner la musique de Giovanni Paolo Foscarini.
France Musique, guitare, guitare. Sébastien Linares.
Bonjour Samuel Strouk.
Bonjour Sébastien.
Alors merci beaucoup d'être avec nous, on est très heureux de vous avoir à nos micros. Ça va être difficile de se vous voir, mais je vais quand même essayer. D'autant que vous nous avez apporté quelques extraits de votre dernier disque, Élise, Mon Mirage, et je vous propose qu'on les écoute ensemble et vous nous expliquez un petit peu ce qu'on entend. Mais avant, racontez-nous un peu comment ça se passe d'écrire un double concerto, d'où vient cette idée.
En général, écrire un double concerto, c'est une assez mauvaise idée pour la santé personnelle, santé de la famille, pour ses proches, tout ça. C'est pas une super idée au départ.
Voilà.
Mais c'est pas une idée qui nous vient tout seul, c'est une commande en général.
Ah,
voilà. C'est arrivé par une commande de Boris Andrianov et de son festival Vivacello, qui est un festival international de violoncelle et de musique orchestrale qui a lieu à Moscou. Et c'était une commande qui m'avait été faite, évidemment, avant-guerre. En 2019, fin 2019, pour une livraison en 2021.
Ah oui, donc voilà. Le contexte a ralenti forcément la...
Et c'est ce qui a fait toute la trajectoire de cet album, justement, et de cet enregistrement, puisque, en gros, on a créé l'œuvre en novembre 21, avant le conflit, et alors même qu'on était en pleine lancée, en pleine euphorie, j'ai envie de dire, sur la lancée de cette création, tout s'est complètement arrêté. Voilà. Et on a dû repenser nos rapports, notre façon de fonctionner, pour pouvoir donner suite à ce projet.
Ok. Donc on va l'incarner tout de suite, ce projet, on va écouter le premier extrait.
Thank you.
un extrait du troisième mouvement de votre double concerto pour guitare et violoncelle, Elise, mon mirage. Alors Samuel Strouk, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'on entend, ce qu'on vient d'écouter ?
Oui, absolument. Alors là, on est au moment de la pièce, de l'œuvre, où tout se rassemble et où tout fait sens. C'était ça dans l'idée dans l'écriture, c'est-à-dire que la pièce commence avec des expositions de climat, de motifs, de petites choses un peu séparées les unes des autres, avec des directions différentes. Et l'idée dans cette écriture, c'était qu'à un moment donné, tous ces éléments exposés au fur et à mesure se rassemblent dans une expression la plus simple, la plus universelle, la plus pure, qui est une mélodie vraiment diatonique, très simple. Voilà. Donc là, on en est à ce moment-là. Ce qu'on vient d'entendre, c'est ça. Et c'est le moment où, quelque part, les amants, l'amour est à sa plus simple expression.
Oui, c'est une sorte de climax.
Absolument, émotionnel.
Et quand vous composez, il y a une idée toujours un petit peu, comment dire, littéraire. Il y a un propos, c'est toujours très narratif. Vous partez toujours de là ou...
En fait, pas réellement. C'est un peu un ping-pong à l'intérieur de moi-même. On est schizo quand on écrit, donc on fait du ping-pong tout seul. Donc c'est un ping-pong avec moi-même entre ce qui vient naturellement, une vibration qui vient de soi, du chant, de la guitare qui avance, et puis aussi ce qu'on se raconte. Et effectivement, le côté narratif, c'est ce qu'on se raconte, c'est ce que cette vibration nous fait nous raconter, et ce qu'on se raconte nous fait encore vibrer, et le ping-pong est là, quoi.
Et dans votre écriture, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est le rapport que vous entretenez avec vos solistes. Là, on a quand même des solistes de premier plan. Chaque fois qu'ils prennent la parole, on est pris par la justesse du phrasé, par leur personnalité, par leur sonorité. Vous écrivez pour eux, spécifiquement ?
Absolument. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui a été récurrent dans tout ce que j'ai pu écrire. Mmh. C'est que la plupart du temps, j'ai toujours composé pour des personnes réelles, des musiciens, avec leur univers, technique, leur univers émotionnel et sonore. Et c'est vrai que là, Boris Andrianov au violoncelle, Dimitri Larionov à la guitare, avaient un duo formé. C'est eux qui m'ont commandé la pièce. J'avais déjà pu travailler avec eux et ça a été écrit vraiment comme un tailleur sur mesure. Vous allez vous faire construire un costume, voilà, fabriquer un costume. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'étais le tailleur pour eux, quoi.
Et si le concerto est repris par d'autres solistes, il va falloir que les solistes se mettent dans l'esprit de ça, parce qu'il y a une justesse finalement d'écriture qui est, comme vous dites, taillée pour certaines personnes.
Mais c'est là que commence toute la vie de l'œuvre, en fait. Et c'est ce qu'on attend en tant que compositeur, c'est que l'œuvre soit prise par d'autres sensibilités et qu'elle soit amenée ailleurs. Parce qu'au départ, il y a un projet, celui que j'ai composé avec les musiciens que j'avais avec moi, et c'est ce qu'on a présenté. Mais derrière, quand c'est repris et changé, j'ai pu vivre ça, par exemple, sur un autre double concerto qui s'appelle Le rêve de Maya, qui est interprété par plusieurs duos de solistes différents. Et à chaque fois, du coup, apparaît de nouvelles choses musicalement, apparaît des nouvelles visions de l'interprétation et de l'œuvre. Et c'est ça qu'on attend en tant que compositeur.
On écoute un deuxième extrait ?
Thank you.
Nous sommes dans le deuxième mouvement du double concerto Élise Montmirage, un beau trémolo magnifiquement joué par le guitariste Dimitri Larionov. Samuel Strouk, il se passe quoi à ce moment-là dans la musique ?
Alors à ce moment-là dans la musique, on est sur les, comment dirais-je, vous savez, dans un couple, il y a de l'amour, mais quand il y a de l'amour, il y a du fracas parfois. Il y a des périodes malheureuses, il y a des périodes d'incompréhension. Et quand on est comme ça, dans une période d'incompréhension, de part et d'autre du couple, on a des sensations, on a des émotions extrêmement fortes avec des intérieurs très torturés. Et on se demande pourquoi, ce qui se passe, il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. Et ce moment-là de la partition, c'est justement après, c'est la résignation après ce moment de séparation en ce moment. Et c'est l'un des deux du couple qui, à un moment donné, revoit les choses avec un petit peu plus de mélancolie, un peu plus de recul et se dit, mais en fait, c'était sympa. Pourquoi on en est arrivé là?
Double concerto, donc, c'est les deux éléments du couple, c'est ça, le violoncelle et la guitare, c'est
quelque
un peu comme
part,
ça qu'on se le raconte.
C'est ça, ouais. Moi en tout cas, c'est comme ça que je me le suis raconté. Il y a un double concerto, il y a une guitare, un violoncelle, et après, il n'y a pas de rôle attitré à l'un ou à l'autre, c'est juste deux personnages qui changent, qui varient et qui éprouvent, en tout cas, voilà, le message vraiment de ce concerto, c'est vraiment un message d'amour, c'est une pièce que j'ai écrite pour ma femme et que j'ai dédié à ma femme et qui, voilà, si vous voulez, cet amour est vraiment permanent dans toute l'œuvre. C'est ça qui guide l'écriture, qui guide les choix musicaux.
Et je trouve que dans cette œuvre en particulier, vous faites preuve d'un sens mélodique qui est particulièrement abouti. Vous commencez par ça ou comment c'est quoi la première étincelle?
Oui, très souvent c'est ça. La première étincelle, c'est vraiment la vibration en général entre mon chant et la guitare. En général, ça commence avec la guitare dans la main et un lâcher prise au
chant.
Et on trouve quelque chose comme ça. Et après, rentre tout le travail de développement, de construction, de structuration, de l'écriture. Mais d'abord, il y a une vibration, et cette vibration, il faut la trouver. Et mon expérience, c'est qu'elle me vient plutôt en chantant, j'ai envie de dire, tout seul en slip.
Ah, c'est ça, tout seul en slip, avec sa gratte.
Voilà. Non, mais c'est pour rigoler, mais disons que voilà, c'est vraiment des moments d'intimité avec son instrument et sa propre voix, et des moments où on se laisse aller.
Thank you.
Samuel Strouk, là, on a changé de pièce, un autre concerto pour guitare seule, cette fois-ci, ça s'intitule Égalité. On écoutait le troisième mouvement.
Mmh. Eh ben, c'est le... Effectivement, l'Égalité, c'est un concerto qui a été écrit sur un poème de José Asuncion Silva, qui raconte, en très peu de vers, comment, dans l'être humain, qu'on soit un empereur en Chine ou qu'on soit un petit gamin de la rue à Bogota, on va ressentir la même chose dès lors qu'on considère le côté pulsionnel des individus. Et à ce moment-là, on arrive sur l'intérieur du petit gamin de la rue de Bogota. Donc c'est lui qui parle quand la guitare prend la parole ici. La guitare change de rôle dans la pièce. Elle joue parfois en guitare acier pour l'empereur et en guitare nylon plus sensible pour le petit gamin de la rue de Bogota.
Bon, je constate quand même qu'il y a encore un narratif fort derrière. Absolument, vous allez absolument pouvoir nous dire ce que vous voulez.
C'est vrai, tout à fait vrai.
Et est-ce que vous, la forme concerto, vous en faites une spécialité ou c'est le
fond? Non, en fait, c'est venu un peu tout seul. Moi, je serais ravi d'écrire plutôt une symphonie.
Okay.
Je serais ravi aussi d'aller vers l'opéra. Simplement, je réagis au stimulus professionnel, c'est-à-dire quand on me demande quelque chose et il se trouve que les personnes qui me commandent des œuvres sont plutôt des solistes. Donc, j'écris des concertos. Mais c'est vrai que je serais ravi de faire d'autres choses parce que ça offre d'autres possibilités. C'est vrai que la forme du concerto est quand même à un moment donné posée sur le soliste et sur la prise de parole du soliste qui engendre un tas de répercussions sur l'écriture, quoi. Et avant que cette interview se termine, je voulais juste en profiter pour remercier chaleureusement et saluer le travail du chef Aurélien Azan-Zelensky et de l'Orchestre National de Bretagne, qui ont été des collaborateurs formidables sur ce projet d'album.
Bon, merci beaucoup pour ces mots. On va vous laisser vous préparer pour votre séquence guitare de légende. Et en attendant, je vous propose d'écouter un autre de vos projets que vous menez en compagnie de François Salk au violoncelle, de Jérémy Arrangeur à la contrebasse et dans cet extrait, Adrien Moignard à la guitare, qu'on recevra d'ailleurs prochainement. Le groupe s'appelle Le Coachello et l'extrait c'est Yiddish. Vous écoutez Loco Cello sur France Musique et il est 14h20.
Guitare de légende, Sébastien Linares.
Aujourd'hui, à nos micros, Samuel Strouk.
Bonjour à toutes et à tous, et merci Sébastien pour ton invitation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guitare, mais peut-être pas exactement comme on en parle d'habitude. En écho à ce podcast « Guitare de légende », qui met en lumière de grandes figures et souvent un répertoire écrit, j'avais envie de prendre un léger contrepoint, ou plutôt d'ouvrir une autre porte. Parce que la guitare, bien sûr, a trouvé sa place dans la musique écrite, savante, la musique notée, mais elle est aussi, et peut-être surtout, construite sur une histoire ailleurs. Dans l'oralité, dans l'instant, dans l'improvisation. C'est un instrument profondément lié aux musiques traditionnelles. Un instrument qui voyage, qui se transforme, qui s'adapte. On la retrouve partout. Dans le blues américain, dans le flamenco andalou, dans les musiques mandingues d'Afrique de l'Ouest, dans la bossa nova brésilienne, dans le fado portugais, dans la folk, la chanson, le rock, le jazz. Sur tous les continents, la guitare a trouvé une voix. Ou plutôt, des milliers de voix. Et souvent, dans ces musiques, il n'y a pas de partition. Ou alors, elle vient après. Ce qui vient d'abord, c'est le geste, l'oreille, le moment, le regard. Pour partager avec vous quelques figures qui, pour moi, incarnent cette histoire-là, je commencerai par le blues, avec des artistes comme John Lee Hooker ou B.B. King. Chez eux, la guitare parle, littéralement. Une phrase, une réponse, une respiration. On est déjà dans une forme d'improvisation profondément liée à la voix, au corps, à l'instant. Et puis en Europe, avec Django Reinhardt. Avec lui, la guitare change de dimension. Il invente un langage, il adapte l'instrument à sa propre histoire, à son corps, à son son. Et au passage, il contribue même à façonner un type de guitare, la guitare Selmer, devenue emblématique du jazz manouche et sur laquelle je vais jouer juste après. Dans le jazz, d'autres grandes voix apparaissent. Wes Montgomery, avec son jeu au pouce, son phrasé d'une élégance inégalée, George Benson, son disciple au départ, qui a fini par révolutionner la guitare jazz. Ici encore, l'improvisation est centrale. C'est elle qui structure le discours. Et puis arrive le rock, avec Jimi Hendrix. Alors là, la guitare explose. Elle devient texture, elle devient matière, énergie brute. Elle sort du cadre. Elle invente de nouveaux sons, de nouvelles façons de jouer. Dans son sillage, des artistes comme Stevie Ray prolongent cette intensité en reconnectant le rock à ses racines du blues. D'autres musiciens encore vont élargir le champ. Je pense à John McLaughlin, en mêlant le rock, le jazz et les musiques indiennes. Paco de Lucia, qui a transformé profondément le flamenco, qui l'a ouvert au monde. Et plus récemment, des artistes comme Pat Metheny ou Pirelli Lagrène, qui continuent de faire évoluer cet héritage, chacun à leur manière. Alors bien sûr, tout ça n'est pas exhaustif. C'est impossible de l'être. Parce que la guitare est partout. Et parce que son histoire se transmet. Elle passe de main en main, d'oreille en oreille, de musicien à musicien. Et chaque culture, chaque tradition, chaque musicien a contribué à enrichir ses possibilités. Techniques, ses possibilités expressives, ses possibilités sonores. Jusqu'à transformer parfois l'instrument lui-même, de la guitare acoustique à la guitare électrique, en passant par toutes ces variations. Ce que je trouve beau dans tout ça, c'est que, au-delà d'être un instrument, la guitare est un terrain de jeu, un espace de liberté, un lieu où on peut s'approprier une tradition pour mieux la réinventer. Ce que vous allez entendre maintenant n'a pas été écrit. C'est une improvisation, un moment, un petit fragment nourri de toutes ses influences, mais surtout guidé par l'instant présent. Thank you.
Guitare Guitare était aujourd'hui réalisé par Patrick Lérissé, enregistré par Charles Pierrick, préparé avec l'aide de Valentin Lévy-Chaudet. La semaine prochaine, on écoutera entre autres du oud. Lakhdar Hanou, Julien Costa, Leïla Zitouni seront nos invités. Et d'ici là, rendez-vous sur le site et l'appli Radio France si vous voulez vous abonner au podcast, regarder les vidéos, consulter les programmes en détail et bien sûr nous écrire.
France Musique.